Oui, alors Blandine, comme tu le mentionnais, la première chronique porte sur la Côte d'Ivoire. C'est en fait une rediffusion d'une entrevue qui a été réalisée par France Afrique avec David Mauger, chroniqueur pour Billets d'Afrique, qui nous offre une lecture historique sur les acteurs actuels de la crise ivoirienne. Alors, on rappellera que le 28 novembre dernier, à l'issue du second tour de la présidentielle, deux candidats se sont proclamés gagnants. Alors, d'un côté, l'ancien président Laurent Gbagbo, qui a été élu vainqueur selon la décision du Conseil constitutionnel ivoirien, un conseil, il faut dire, que son parti contrôle, alors que la Commission électorale indépendante a déclaré gagnant Alassane Ouattara, le candidat de la dite communauté internationale. Alors, en effet, Alassane Ouattara a reçu l'aval des Nations unies, de l'Union africaine, de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et, bien sûr, des États-Unis et de la puissance coloniale en Côte d'Ivoire, la France. Alors, le FMI a par ailleurs prévenu qu'il ne travaillerait qu'avec un gouvernement reconnu par les Nations unies et la Banque mondiale a pour sa part annoncé qu'elle réexaminerait le programme de crédit selon les issues de la crise. Donc, en revenant sur la période historique qui précède l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo, David Mauger situe les deux candidats dans l'histoire ivoirienne sans manquer de souligner leur relation avec l'Empire colonial français. C'est donc une entrevue qui est tronquée parce qu'on n'a pas la place ce matin pour la diffuser intégralement. Alors, je vous invite à écouter la suite sur afriradio.net, dont afriradio.net, si vous aimez ce que vous entendez. Donc, je vous laisse avec Laurent Gbagbo, une entrevue réalisée par France Afrique.
Il est devenu indépendant en 1960. C'est Oufoué qui a été chef d'État pendant un peu plus de 30 ans, puisqu'il est resté au pouvoir jusqu'à son décès en 1993. La Côte d'Ivoire a été une espèce de façade de la relation France-Afrique pendant à peu près 30 ans. Un certain nombre de pays, en même temps que la Côte d'Ivoire, accèdent à l'indépendance. Maintenant, il faut savoir que ces indépendances sont assorties d'un certain nombre de circonstances qui font qu'elles sont largement fictives. Concernant la Côte d'Ivoire, d'une part, très rapidement, il va y avoir une base militaire française permanente à Abidjan. Cette base militaire, il faut la voir aussi avec des accords de coopération militaire qui vont avec, qui officiellement assurent la défense de la Côte d'Ivoire en cas d'agression extérieure. En fait, ces accords sont aussi assortis d'une convention de maintien de l'ordre qui est secrète, qui très concrètement signifie que, coûte que coûte, la France maintiendra au pouvoir le président si celui-ci lui plaît. Ça veut dire que les droits de l'opposition étaient complètement bafoués. Par exemple, le multipartisme qui était officiellement inscrit dans la Constitution n'a jamais été appliqué jusqu'au début des années 90. On va passer sur cette période que les Ivoiriens aujourd'hui, par comparaison, voient de manière relativement positive en majorité, même s'il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. Disons brièvement que tous les germes de la crise qu'on a connue après se sont développés sous l'ère d'Oufoué. Celui qui a succédé à Oufoué à sa mort, c'est Henri Conan Bédié, qui était le président de l'Assemblée nationale, qui était issu du même parti, le fameux parti unique PDCI. Lui a assuré l'intérim du pouvoir jusqu'en 1995. À ce moment-là, il a été élu au cours d'élections qui ont été contestées, notamment du fait de l'idéologie qui avait été mise en place à ce moment-là pour gagner les élections et pour éliminer l'un des prétendants au pouvoir qui était Alassane Ouattara. Au début des années 90, la Côte d'Ivoire a connu une grosse crise au niveau économique. Les cultures de rente comme le café et le cacao ne rapportaient plus autant à cause des prix du marché mondial, ce qui fait que des institutions comme le FMI et la Banque mondiale ont pu imposer des politiques d'ajustement structurel à la Côte d'Ivoire. Et celui qui a mis en place ces politiques était quelqu'un issu du FMI, c'est en l'occurrence Alassane Ouattara, qui a donc été nommé Premier ministre alors que Oufoué était vieillissant et il a, disons, assumé l'essentiel du pouvoir. Dans les dernières années d'Oufoué, très concrètement, c'est lui qui a privatisé une bonne partie des services publics ivoiriens qui ont échu du coup à des grands groupes français, notamment Bouygues s'agissant de l'électricité, s'agissant de France Télécom en ce qui concerne le téléphone et ainsi de suite. Donc il y a eu une privatisation des services publics ivoiriens qui qui perdure évidemment aujourd'hui. Ce qu'on peut aussi retenir d'Alassane, ou disons ce que retiendra l'opposition ivoirienne d'Alassane, c'est qu'il a assez durement réprimé des contestations qui avaient lieu à Abidjan, notamment des contestations qui étaient menées par le parti d'opposition FPI, qui a d'abord été un parti clandestin, et lorsque, dans les années 90, le multipartisme a enfin été effectif, est devenu un parti au grand jour. Donc, en fait, une manifestation à Abidjan a été, au cours de laquelle il y a eu des violences, bon, que l'opposition pense qui ont été, le pouvoir serait à l'origine de ces violences. Il y a eu l'emprisonnement du chef du FPI, Laurent Gbagbo. Donc ça, c'est quelque chose qui a extrêmement marqué l'opposition ivoirienne et qui du coup colle à l'image d'Alassane Ouattara. Ce premier ministre est apparu comme étant un rival tout à fait crédible, candidat naturel du PDCI qui était Henri Conan Bédié. Et ce parti PDCI, pour conserver le pouvoir, va mettre en œuvre ce qu'on appelle l'ivoirité, qui était une théorie qui visait à classer les Ivoiriens en différentes ethnies et à les classer, disons, du point de vue des origines, qui étaient des origines complètement fantasmées en fait, hein, à classer des Ivoiriens comme étant certains multiséculaires et d'autres étant des envahisseurs arrivés à tel moment de la période de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça a eu pour effet, d'un point de vue politique, de polariser complètement le débat entre Alassane Ouattara et le PDCI. En 1995, lorsqu'ont lieu les premières élections de l'après Oufoué, Bédié est élu et il devient très très rapidement impopulaire. À la fois pour des raisons de détournement d'argent public qui se faisait de manière assez peu discrète, à tel point que l'Union européenne s'est crue obligée de protester officiellement par rapport à ces détournements, et aussi du fait de l'ivoirité. Assez rapidement, les Ivoiriens ont compris que c'était des rivalités politiques qui étaient en train d'utiliser des armes absolument dévastatrices et très dangereuses. Pour tout un ensemble de raisons, Bédié s'est trouvé disqualifié. Fin 99, c'est-à-dire un an avant les élections qui étaient prévues pour l'an 2000, Bédié se fait renverser par un groupe de jeunes militaires. Ces jeunes militaires vont chercher un général qui avait été mis à l'écart dans les années 90, qui était c'était le général Gueye. Le souvenir que les Ivoiriens pouvaient avoir du général Gueye était que c'est à lui que Oufoué a demandé de réprimer une contestation étudiante de manière extrêmement violente. Donc voilà le souvenir qu'il a laissé, et par la suite il a été écarté du pouvoir parce qu'on pensait déjà que c'était quelqu'un qui était prêt à renverser le président. C'est lui qui arrive au pouvoir, disons à l'époque de Noël en 1999, proclame comme étant le balayeur, c'est-à-dire qu'il va mettre un peu de ménage dans la maison ivoirienne, promet des élections dans les mois qui suivent, élections auxquelles bien sûr il ne se présentera pas, sauf que quelques mois plus tard, lui-même se dément et annonce qu'il va troquer l'habit du militaire pour celui du candidat. Les Ivoiriens donc vont voter à l'automne 2000. Auparavant, Gueye aura fait voter une nouvelle constitution qui lui permet d'écarter à la fois Bédié, qui a été renversé, de la course présidentielle, mais aussi à nouveau Alassane Ouattara. Le seul candidat de poids qui va rester face à lui pour ces élections, c'est Laurent Gbagbo, l'opposant de toujours, celui qui a combattu Oufoué dans la clandestinité, qui finalement va gagner ces élections. Je pense que les Ivoiriens, à ce moment-là, pour une part, il y a ceux qui ne vont pas se déplacer pour voter parce que leur candidat ne se présente pas, mais aussi pour une grande partie, ils ont à cœur d'enlever du pouvoir un général qui, en l'espace de quelques mois, s'est transformé. Au départ, c'était le Père Noël, à la fin, c'était quelqu'un qui tentait de rester à tout prix au pouvoir. Donc finalement, Gbagbo va gagner ses élections et accéder au pouvoir. Mais il y a toute l'opposition qui est derrière Alassane Ouattara qui réclame de nouvelles élections, puisque ces élections n'ont pas vu la candidature d'un certain nombre de personnes qui pouvaient prétendre au pouvoir. Gbagbo reste en place, mais lui-même dit que les élections qui l'ont mené au pouvoir étaient des élections calamiteuses. Il y a la mise en place d'un gouvernement d'ouverture pour essayer d'apaiser les choses. Il y a aussi un forum de réconciliation qui est mis en place. Mais en septembre 2002, tout ça ne va pas empêcher une tentative de coup d'État qui va échouer. Lorsque Gbagbo est élu, il faut voir qu'en France, pour le pouvoir chiracien, c'est un symbole extrêmement détestable.
zone d'expression populaire. Encore un nouvel affront qui fera jacter dans les chaumières. Devoir d'insolence, devoir d'irrévérence, devoir de résistance. On n'est pas là pour leur plaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé, maintenant c'est formel, ça y est, c'est confirmé. Parfois ministériel, les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés, carte blanche pour les gros pauvres qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels, un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Est-ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles? Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants. Affligeante l'évolution en 60 ans. Regarde à l'Assemblée, il y a que des culs tout blancs. Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon. Quand t'adhères à leurs projets, quand tu cautionnes leurs saloperies, leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes ils adorent le couscous et Cheikh Khaled, mais ils flippent que leur fille leur amène à Mohammed. Fais pas t'en étonner, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rassons qui n'ont jamais enlevé leur costume de colon. Le racisme est dans vos murs et dans vos livres scolaires, dans vos souvenirs, dans votre histoire dont vous êtes si fiers, omniprésents. Il est banal et ordinaire, il est dans vos mémoires et impossible de s'en défaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Et toi alors, petit socialiste hypocrite, j'ai pour toi quelques rimes amèrement écrites. Tu nous as dit que ta cause était celle des sans-papiers, qu'elle était antiraciste. Tu nous as promis l'égalité, tu nous as fait miroiter, rêver d'une France meilleure. Mais tu triches, tu récupères comme avec la marche des beurs. Manipulateur, tu cours après l'électeur, mais on t'a démasqué, toi et ton parti d'usurpateur. Et à nos intellos, nos petits fachos à lunettes, nos têtes à claques comme la connasse de Fourès. Tu propages, alimentes la haine du musulman, du banlieusard, avec leur discours stigmatisant, leur discours arrogant, insultant et méprisant. On nous présente leur propagande dans les médias dominants. C'est l'union sacrée contre l'envahisseur, le barbare, le sauvage, contre l'ennemi intérieur. Mais on va pas se laisser faire, se laisser baïonner, on va pas lâcher l'affaire comme Élie du LKP. C'est mon devoir d'insolence, mon devoir d'irrévérence, mon devoir d'impolitesse, mon devoir de résistance. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes.
Alors, vous écoutiez Nique la France du groupe ZEP, Z-E-P.